c'est maintenant les entreprises qui financent les actionnaires. Et alors là, il y a quand même un renversement stupéfiant et qu'il faut s'expliquer, je veux dire. Ça vient de deux choses, en gros. D'abord, la première chose, c'est que les actionnaires apportent des capitaux aux entreprises, sans doute, mais pas pour des prunes. Ils demandent une contrepartie. Cette contrepartie, ça s'appelle le dividende. Donc ça, c'est déjà un premier reflux en provenance des entreprises vers les actionnaires. Mais le point important, c'est que ce reflux a gagné en intensité dans des proportions absolument hallucinantes dans les dernières décennies. Pourquoi ? Parce que entre les actionnaires individuels, de jadis, les petits porteurs, et les entreprises, sont venus s'interposer un acteur intermédiaire qui sont ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors c'est qui les investisseurs institutionnels ? C'est les fonds de pension, les fonds mutuels, les SICAV, les OPCVM, les compagnies d'assurance vie, les banques qui gèrent les PEA ou les comptes titres de leurs clients, etc., etc. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez ces énormes institutions financières qui collectent les épargnes et qui les agrègent. Parce que les épargnes individuelles, séparément, c'est une petite poussière d'épargne microscopique, une myriade, qui n'ont chacune aucun pouvoir. Le pouvoir, ça vient de l'agrégation des épargnes, et c'est pour ça qu'il revient à ces investisseurs institutionnels exclusivement, qui, eux, opèrent la constitution de la force de frappe financière. C'est eux, ils ont l'épargne concentrée dans leurs mains. Et de l'autre côté, ils se tournent vers les entreprises. Mmh. Alors ça change tout, parce que, je veux dire, supposez que Daniel Mermet... Petit porteur, enfin, imaginez qu'un jour vous
pourquoi
réussissiez.
Je serais pas un gros porteur,
parce que vous ne faites rien qu'à dépenser, c'est tout. Je veux dire, imaginez qu'un jour vous soyez capable de mettre un peu d'argent de côté au lieu de tout claquer en costume smalto ou pour les traites de la Ferrari. Ouais. Bon, et puis vous apporteriez vos petites économies à Total ou à Danone, etc. Et tout le monde ferait comme vous. Bon, ben vous toucheriez le dividende qu'on vous donne, vous diriez merci et bien content quand il y en a rien. Quand les investisseurs institutionnels viennent se glisser dans ce jeu, que le marché boursier est animé exclusivement par eux, le rapport de force avec les entreprises change du tout au tout. Et l'histoire récente du capitalisme actionnarial, c'est l'histoire de l'émergence du pouvoir actionnarial, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'effacement de la figure du petit porteur et de son remplacement par la puissance des intermédiaires. Et c'est ces intermédiaires immenses qui détiennent le pouvoir d'exaction et d'extraction. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'extraire le maximum des entreprises. Et ce maximum, il prend notamment la forme du dividende, qui a cru dans des proportions considérables. Entre 1982 et 2007, la part des dividendes versés aux actionnaires dans le produit intérieur brut est passée de 3,2 à 8,7%. C'est tout à fait considérable. Donc c'est avec des choses comme ça qu'on fait un changement de monde.
Bon, mais ça ne me dit pas quand est-ce qu'on en finit avec le capitalisme.
Ah,
alors ça peut-être la prochaine fois, non ?
C'est ça. Mais c'est toujours ça. Il faut toujours attendre la crise d'après, quoi, pour en finir. Ouais. C'est ça le truc. Et alors, on en revient à cette expression autour de laquelle on déroule cette discussion. Se débarrasser du capital. Bon, se débarrasser du capital, ça peut vouloir dire plein de choses. Fermer la bourse, c'est la signification spécifique que prend cette formule quand on considère le capital comme moyen de financement. Mais on peut comprendre le mot capital autrement, en lui donnant une portée conceptuelle beaucoup plus étendue. On peut le comprendre non plus techniquement comme instrument de financement, mais en revenant tout simplement à ce que disait Papa Marx du sujet. On peut comprendre le capital comme rapport social. Le capital comme rapport social, c'est que le pouvoir découle de la propriété des moyens de production.
Oui.
C'est que les salariés se soumettent à l'autorité des propriétaires des moyens de production. Et donc, le capital comme rapport social, c'est le coup de force qui brise la symétrie première entre le capital et le travail. Parce que lorsqu'on regarde la chose de près, on s'aperçoit que les apporteurs de machines ne peuvent pas plus se passer des apporteurs de force de travail que l'inverse pour produire quoi que ce soit. Sauf que précisément, le capital, c'est plus que du capital machine. À l'origine, c'est du capital argent. Et entre le capital argent et le travail, celui des deux qui accédera à la domination, c'est celui qui peut attendre le plus longtemps en se passant de l'autre. Et alors à ce jeu-là, le résultat des courses est connu d'avance. La force de travail, elle a besoin de becqueter tous les jours. Le capital, lui, il peut attendre. Alors, par après, vous avez toute la grande machine du droit va se mettre en branle pour venir consacrer et durcir cet état de fait. Mais à l'origine, c'est ça. Donc, si vous voulez, on peut comprendre la rupture de symétrie entre le capital et le travail, mais comprendre, ça n'équivaut pas à justifier. Demeure toujours aussi injustifiable l'empire de la propriété sur la production, le pouvoir des propriétaires ou de leurs délégués sur les producteurs. Et là, il faut apercevoir ce qu'il y a d'inhabituel dans cette chose-là qui nous paraît si habituelle. Et pour ça, si vous voulez, je voudrais prendre un instant pour revenir en amont, mais au problème de la constitution des collectifs de production. Mais en reformulant le problème de la manière la plus simple et en même temps la plus générale possible.